terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ikuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 15h à 17h sur CIBL.
Voilà, le dernier dimanche de février, le 25 à 15h, je serai sur l'avenue Paulista en train de tenir un rassemblement pacifique pour défendre notre État de droit démocratique. Retenez, reprenez votre respiration. C'est pas moi qui vous dis là que le 25 je vais être. Non, c'est pas moi. C'est ce qu'a indiqué Jair Bolsonaro, ancien président brésilien, sur les réseaux sociaux lundi dernier. Je répète ce qu'il a dit. Le dernier dimanche de février, le 25 à 15h, je serai sur l'avenue Paulista en train de tenir un rassemblement pacifique pour défendre notre état de droit démocratique. Un message en fait qui fait suite à sa condamnation à 8 ans. 8 d'inéligibilité l'an dernier à la suite d'accusations pour fraude lors des dernières élections présidentielles. Une démonstration pour prouver en fait son innocence. Hein. C'est bien ça, Michel. Bonjour, Michel.
Bonjour, bonjour.
Voilà. Donc, c'est ça. Il voulait Jair Bolsonaro. Jair, voilà, je sais, tu vas le prononcer en normal. Voulait comment nous démontrer qu'il était innocent.
Oui. Alors, avant toute chose, je suis très heureuse d'être parmi vous pour ma première chronique en cette année 2024.
Au mois de février.
Je fais officiellement, oui, ma rentrée quasiment un mois après tout le monde.
Voilà.
Donc, je suis de retour de mon long séjour en Guadeloupe et donc, il faut que je me remette à jour dans l'actualité.
C'est bien en Guadeloupe?
Oui.
Ok, on va pas insister.
Donc, je tombe sur plusieurs articles concernant l'ancien président brésilien qui est empêtré dans plusieurs affaires judiciaires depuis qu'il a perdu les dernières élections présidentielles en 2022. Mm-hmm. Pour rappel, Lula, qui lui-même faisait face à la justice il y a de ça quelques années et donc qui empêchait en fait de se représenter, est en fait devenu le président actuel de l'État brésilien. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on estime que l'élection présidentielle donc, qui opposait Lula à Bolsonaro a été l'élection présidentielle la plus serrée de l'histoire, selon les spécialistes.
En fait, quand tu parles, ça fait penser à Trump et Biden, ouais. Un peu genre 2020, là, hein,
c'est ça.
Mais, ok, juste pour que les gens qui nous écoutent comprennent, Jair Bolsonaro. Pourquoi il est poursuivi par la justice,
en fait? Alors, avant de rentrer dans les détails, il faut revenir quand même au début. Donc, lors des élections présidentielles en 2022, Bolsonaro se représente dans l'optique, bien entendu, de remporter un second mandat. Mais face à lui, il y a Lula, ancien président brésilien, donc qui revient sur la scène politique. La campagne sera intense et ça va même se ressentir lors des résultats. Donc, je vous disais au début, ça a été l'élection présidentielle la plus serrée de l'histoire, puisque même si Bolsonaro y perd les élections face à Lula, mais c'est 49,1% contre 50,9% des suffrages exprimés.
Très serré.
Très serré. Mmh. Donc, bien entendu, Bolsonaro, il refuse de reconnaître sa défaite, considérant que c'est en fait tout le système électoral qui est à revoir. Et en fait, plus je vous résume la situation, et j'ai l'impression vraiment de revue la dernière élection présidentielle entre Trump et Biden. C'est quand même incroyable. Mm-hmm. Bref, Bolsonaro finira par reconnaître sa défaite quelques jours plus tard, mais il va quand même déposer un recours au tribunal supérieur électoral pour contester sa défaite, recours qui sera rejeté. Et à la fin de l'année 2022, Bolsonaro quitte le Brésil pour se rendre aux États-Unis, mais surtout pour ne pas assister à la passation de pouvoir. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'un ancien président ne remet pas l'écharpe présidentielle à son successeur. Tout un symbole.
Et c'est donc là que les problèmes vont commencer pour Bolsonaro.
Absolument. Donc, les partisans de Bolsonaro n'acceptent toujours pas cette défaite et ils décident le 8 janvier 2023 d'envahir plusieurs institutions gouvernementales. Donc, ce sera la place des trois pouvoirs à Brasilia, le Congrès national, le palais présidentiel du Planalto, mais également le tribunal suprême fédéral. Donc, vous l'aurez compris, il y a des actes de vandalisme et les forces de l'ordre vont devoir intervenir pour amener le calme. Bolsonaro, lui, va condamner les violences tout en accusant en fait son opposant Lula d'avoir organisé les émeutes. Mais vous avez un juge qui s'appelle Alexandre Moares qui décide d'inculper quand même Bolsonaro comme étant à la tête des émeutes du 8 janvier 2023, un événement, encore une fois, qui ressemble à l'invasion du Capitole du 6 janvier 2021 aux États-Unis. Toujours est-il que quelques mois plus tard, alors que Bolsonaro cherche à reprendre la tête du parti de l'opposition, donc opposition face à Lula. Il va être condamné à 8 ans d'inéligibilité, donc c'est-à-dire jusqu'en 2030, pour abus de pouvoir et pour avoir émis des doutes sur le fonctionnement du système électoral au Brésil.
Et ce n'est pas tout, en fait, il y a encore. Et
effectivement, la liste des problèmes judiciaires pour Bolsonaro ne fait que s'allonger. Il est maintenant soupçonné d'espionnage illégal concernant ses opposants politiques durant son mandat. Donc, j'ai regardé un article, par exemple, du journal La Presse qui, je cite, dit que les policiers ont mené lundi des perquisitions ciblant plusieurs propriétés liées à Carlos Bolsonaro. Donc, c'est l'un des fils de Jair Bolsonaro, dans l'espoir, en fait, d'identifier les principaux bénéficiaires des formations obtenues illégalement au sein de l'Agence brésilienne de renseignement, qu'on appelle ABIN, à travers des actions clandestines menées de 2019 à 2022, donc c'est-à-dire durant le mandat de Bolsonaro. Mmh. Donc, les perquisitions visent l'ancien chef de l'Agence brésilienne du renseignement, mais aussi, donc, comme je disais, l'un des fils de l'ancien président. Donc, en gros, on considère qu'il y a eu existence d'une organisation criminelle pour espionner des personnalités politiques par le biais des téléphones et ordinateurs portables, sans l'autorisation des personnes et sans l'autorisation de la justice. Bien entendu, encore une fois, Bolsonaro va se défendre en estimant qu'il est victime de persécution et que toutes ces accusations sont sans fondement. Et c'est pour cela qu'il appelle ses partisans à manifester, je cite, pacifiquement, le 25 février prochain pour, en gros, laver son honneur. Une affaire à suivre de très près.
Mmh. Ceux qui avaient envahi le Capitole aussi étaient dans une manifestation soi-disant pacifique. Hein. Non, mais on voit que ces affaires donc menacent l'avenir politique de Bolsonaro, ça c'est clair. Après avoir mis tous ces éléments les uns après les autres, tu en tires quoi, toi, comme analyste ?
Alors, c'est vrai que j'ai lu les articles, je les ai relus, j'ai réfléchi. Et hormis que Bolsonaro, tout comme Trump, ont été élus démocratiquement à la tête de leurs pays respectifs, malgré les sorties les plus loufoques ayant des affirmations à la limite du tolérable, donc c'est des propos racistes, xénophobes ou encore homophobes, je me rends compte en fait qu'on assiste de plus en plus à l'arrivée de personnalités politiques issues de l'extrême droite. Mmh. Je pense notamment à la dernière élection présidentielle en Argentine qui a vu la victoire du candidat de l'extrême droite, Javier Milei, j'espère que je prononce bien, qui est pour moi quand même un personnage assez loufoque et qui tient des propos douteux. Je me pose également la question de savoir si on n'assiste pas en fait à la fin du bipartisme traditionnel dans les pays occidentaux dits démocratiques, puisque les partis de droite et de gauche, que ce soit aux États-Unis, au Brésil, en Argentine et même en Europe, n'ont pas en fait réussi à relever l'économie du pays. Mmh. Alors certes, le Covid est passé par là, mais en même temps, ces partis traditionnels n'ont pas été en mesure de permettre une croissance économique, ce qui crée en fait de la frustration et même de la colère pour la population. La preuve en est, on se retrouve en pleine inflation où la crise du logement touche de nombreuses familles et sans compter que les salaires n'évoluent pas. Mmh. En clair, comme l'analysait Éric Desrosiers pour un article paru en 2023 pour le journal Le Devoir, nous sommes en plein dans l'ère des polycrises.
Mmh, les polycrises,
ouais.
C'est ça. J'aime beaucoup quand tu dis « il tient des propos douteux ». J'aime la nuance que tu essaies d'apporter, oui, des propos douteux. Non, mais justement, restons dans les polycrises. Mm-hmm. Bolsonaro, donc on va attendre la suite, on va voir ce que ça va donner. Mais là, juste à côté, il y a aussi autre chose qui naissait, c'est le président de la République dominicaine, Luis Abinader, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce, qui a annoncé aussi que la situation de crise en Haïti est telle pour lui. Il a carrément parlé de qu'on se dirigeait vers une guerre civile.
Exactement. Mmh. Alors, rappelez-vous, je vous ai parlé lors de mes dernières chroniques de la possible intervention.
Celle de 2023.
Voilà, hein. C'est ça. De la possible intervention kényane dans le pays. Donc, intervention qui, pour le moment, est bloquée à la suite d'une décision de la Cour suprême kényane. Mmh. Malheureusement, donc, vous pensez bien que les dernières semaines, le niveau de violence s'est amplifié. Et c'est d'ailleurs ce que rapporte l'ONU. Où ils estiment que le mois de janvier a été le plus violent depuis plus de 2 ans en Haïti, où près de 5000 personnes ont été tuées en 2023, dont 2700 civils victimes de gangs de plus en plus violents. Alors, M. Abinader prononce lors d'une réunion du
Conseil... Excuse-moi, monsieur, tu as dit 2700 victimes.
2700.
C'est beaucoup.
C'est énorme.
C'est énorme, c'est énorme.
Alors, M. Abinader prononce lors d'une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU, je cite, « Notre slogan désormais sera « Soit nous nous battons ensemble pour sauver Haïti, soit nous nous battrons seuls pour protéger la République dominicaine. Aïe. Fin de citation. D'ailleurs, les États-Unis, pardon, ont inscrit Haïti sur la liste des pays à ne pas visiter. Et ça, Haïti fait partie en fait du seul pays, c'est le seul pays, pardon, caribéen à faire partie de la liste des pays qu'on considère qu'il faut éviter justement de visiter. Il y a environ 19...
Même s'ils sont une part du problème, hein, je dis bien ça en sûr, passant.
Bien
là,
sûr,
comme ça,
bien hein. sûr. Et je rappelle tout de même que la République dominicaine est également en conflit avec Haïti depuis plusieurs semaines à la suite de la construction d'un canal d'eau situé à la frontière haïtiano-dominicaine, donc c'était à la rivière d'Arabon. C'est un conflit que j'ai aussi évoqué lors de mes dernières chroniques et je vous invite aussi à réécouter. Donc en fait, on aura compris, la situation est extrêmement complexe. Il y a un statu quo à la fois au niveau des autorités nationales mais aussi internationales. Et encore une fois, c'est la population civile qui perd un lourd tribut dans cette situation. Mais il faut quand même se poser la question suivante. Est-ce que les propos du président dominicain sont à prendre au sérieux ou alors est-ce plutôt de la surenchère?
Ça, c'est question qu'on lance comme ça, comme on dit, connaissant quand même les rapports entre les deux pays. Je sais pas, surenchère, à prendre au sérieux, je sais pas trop. Toujours est-il que c'est une situation qui risque de pousser encore, c'est sûr, de nombreux Haïtiens et Haïtiennes à fuir le pays.
Absolument.
Ça, c'est clair, en quête d'un meilleur avenir, d'une vie meilleure. Oui. Et ça va relancer de nouveau le problème des migrations. Ça, c'est clair. Et puis, ça va sûrement, vu que certains viendront probablement vers le Québec, et ben, ça va encore valoir une stigmatisation.
Absolument.
Une indexation et tout ça. Donc, on n'en sort pas. Merci beaucoup, Michel, pour ta première chronique de l'année 2024. C'était très instructif et c'était vraiment des situations à suivre. Ce serait intéressant un peu ce concept, les polycrises, là, de voir un peu que nous vivons dans un monde, il y a des crises partout.
Absolument.
Partout. Mmh. Et on n'en sort pas. Mais cette histoire de comme Haïti et République dominicaine, là, je pense qu'il ne faut pas juste regarder ça comme ça.
Non.
Je pense qu'il faut vraiment creuser, regarder
ça.
Parce que s'ils commencent à faire une sortie comme celle-là, pour peu que l'opinion internationale ne bouge pas vite, c'est pour lui le prétexte de dire soit nous nous défendrons tout seuls, ou alors...
Voilà, et donc ça va être peut-être aussi un prétexte pour mettre en place des lois de plus en plus.
Voilà, c'est
ça,
exactement.
Complètement.
Ok, on fait une pause et puis après, juste avant qu'on entre dans notre segment Cannes, on va évoquer rapidement un autre sujet. Mon nom est Cyril Ekwala.